Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Elle a secouru en mer près de 1000 migrants en détresse depuis le début de l'année. L'ONG SOS Méditerranée demande l'adoption d'un mécanisme de solidarité européenne pour éviter le long blocage en mer des personnes secourues. Nous y reviendrons avec la directrice adjointe de SOS Méditerranée, Fabienne Lassalle. La journée mondiale des donneurs de sang, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne d'appel aux dons. Regard dans votre journal sur Le Gardien des Mondes, le documentaire de la réalisatrice Leïla Chaïbi. Il sera présenté demain à Tunis. Nous écouterons Leïla Chaïbi. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, victoire du Maroc hier soir 2-0 face au Libéria. C'était lors du deuxième match des Lions de l'Atlas. Cet appel de l'ONG SOS Méditerranée. Elle demande l'adoption d'urgence d'un mécanisme de solidarité européenne. Objectif, éviter des blocages en mer de candidats à l'exil secourus par l'ONG. Les explications de la directrice adjointe de SOS Méditerranée, Fabienne Lassalle.
À l'approche de l'été, SOS Méditerranée alerte sur ce qui est en train de se passer en Méditerranée, qui est un allongement des temps de que l'on qualifie de blocage des navires de sauvetage en mer lorsque nous avons réalisé des opérations de sauvetage et qu'il y a des rescapés à bord, de blocage, c'est-à-dire le temps qu'il est nécessaire pour obtenir un port pour pouvoir débarquer ces rescapés. Et ce temps s'allonge lors de nos dernières opérations en mai. Il a fallu 10 jours avant que les autorités maritimes italiennes nous désignent un port pour pouvoir débarquer les quelques près de 300 personnes qui étaient à bord. Et donc, nous alertons et nous demandons aux États européens de se mobiliser pour faire preuve de solidarité pour qu'un mécanisme de débarquement prévisible et automatique puisse être défini et mis en place pour nous permettre de débarquer rapidement les rescapés, qui est tout ce que prévoit le droit maritime, puisque c'est une obligation d'attribuer un port dans les meilleurs délais à tout navire qui a procédé à des sauvetages.
Et ce temps qui s'allonge, cela bien entendu a un impact sur le plan sanitaire, sur l'état de santé des candidats à l'exil.
Ces temps qui s'allongent, ces blocages en mer ont un effet dévastateur sur les rescapés, qui sont déjà très éprouvés par la traversée, par ce qu'ils ont vécu, et qui se retrouvent dans une situation à la fois physique et mentale extrêmement précaire et difficile. Et ça engendre un stress incroyable. D'ailleurs, on a eu à plusieurs reprises à déplorer ces deux dernières années des rescapés qui ont sauté par-dessus bord tellement la pression était trop forte. Donc c'est rajouter une pression morale à une pression physique qu'ils ont déjà subie de par leur traversée. Donc c'est très préjudiciable. On a été d'ailleurs aussi à plusieurs reprises obligés de demander des évacuations sanitaires par hélicoptère pour des personnes qui étaient dans des états physiques et mentaux trop mauvaises.
Les traversées qui se poursuivent en Méditerranée, et vous sauvez régulièrement des centaines de personnes.
Malheureusement, ces traversées qui se poursuivent, et on le sait avec l'approche de l'été, les conditions météorologiques étant meilleures, les traversées sont encore plus nombreuses. Et effectivement, depuis le début de l'année, l'Ocean Viking, qui donc est toujours à croiser en Méditerranée centrale, a déjà secouru 999 personnes. Mais malheureusement, on peut aussi regretter la disparition d'au moins 690 personnes sur cette même zone.
Il faudrait davantage de prise de conscience, selon vous, sur cette situation?
La prise de conscience, elle manque, clairement, parce que l'information, elle est connue. Malheureusement, la situation, elle n'est pas nouvelle. Ça fait malheureusement déjà 7 années que SOS Méditerranée et d'autres navires civils de sauvetage font du sauvetage sur cette zone en Méditerranée, entre la Libye et l'Italie. Donc les États sont informés, ils le savent, mais il ne se passe pas grand-chose, je dirais, et on se retrouve dans des situations qui se complexifie, et parce qu'on est toujours face à une absence de solidarité des États européens pour accueillir et gérer les débarquements des personnes qui ont été secourues en mer.
Vous faites également, au sein de SOS Méditerranée, de la pédagogie auprès des jeunes gens, et vous expliquez vos actions aux collégiens, c'est aussi un élément important.
C'est absolument essentiel, parce que cette situation est complexe quand même à comprendre ce qui se passe. Donc depuis la création d'ailleurs de SOS Méditerranée en 2015, dès 2015, nous avons entamé la sensibilisation dans les écoles pour faire de la pédagogie, pour expliquer ce qui se passe. Et depuis 2015, c'est plus de 50 000 collégiens, lycéens qui ont pu être sensibilisés à la situation en Méditerranée, particulièrement en Méditerranée centrale, et l'action qui est menée par SOS Méditerranée et quelques autres navires civils de sauvetage.
Il est important aujourd'hui de changer de regard sur ces personnes, sur ces candidats à l'exil. Personne ne quitte son pays par plaisir.
Évidemment, personne ne quitte jamais son pays par plaisir, et ces personnes ne sont pas différentes d'autres d'être réfugiés. C'est d'ailleurs bien comme ça qu'on agit. Nous, on est face à des personnes qui se retrouvent à un moment en détresse en Méditerranée, qu'importe les raisons pour lesquelles elles ont été amenées à fuir, à faire ces traversées. Ce que l'on sait, c'est qu'elles sont en détresse et en péril, et elles risquent de se noyer à tout instant, et donc il faut leur porter assistance. C'est le seul élément qui doit être gardé et pris en compte. Et il faut sauver des vies, coûte que coûte, et on ne se pose pas d'autres questions.
Et aujourd'hui, vous estimez que vous bénéficiez de suffisamment de moyens pour mener vos missions ?
Non, parce que c'est toujours un challenge pour nous de pouvoir financer notre mission qui est coûteuse, hein, parce que ça demande des moyens énormes de pouvoir affréter un navire suffisamment robuste et grand et avec tous les équipements nécessaires pour faire ces opérations de sauvetage en mer. Elles représentent 14 000 euros par jour, et aujourd'hui nous sommes financés à 90% grâce à la solidarité des citoyens, grâce à des dons privés, mais évidemment c'est chaque fois un challenge pour aller rechercher ces financements et pour pouvoir assurer la continuité de la mission. Donc oui, sans cesse, nous avons besoin et nous faisons appel à la solidarité de chacun pour pouvoir contribuer et nous aider à mener à bien cette mission.
Fabienne Lassalle, directrice adjointe de l'ONG SOS Méditerranée. La grève générale jeudi prochain dans le secteur public et la fonction publique en Tunisie. La centrale syndicale UGTT qualifie d'échec la séance de négociation qui s'est tenue hier entre les représentants du gouvernement et ceux du syndicat, le syndicat qui maintient ainsi son appel à la grève. L'UGTT demande notamment l'annulation de la contribution sociale de solidarité de 1% et la finalisation des négociations concernant les agents du secteur public en Tunisie. Des affrontements ont éclaté hier entre tribus rivales dans l'ouest du Soudan, au Darfour Ouest. Des violences qui ont fait plus de 110 morts. 14 villages ont également été incendiés. L'aéroport international de Bagdad a fermé pendant quelques heures hier à cause d'une nouvelle tempête de poussière. C'est un phénomène qui s'est fortement amplifié ces derniers mois dans ce pays semi-désertique. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en l'espace de quelques semaines une dizaine de tempêtes de sable et de poussière. Entretien téléphonique hier soir entre la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue algérien Ramtane Lamamra. Les deux ministres ont évoqué les derniers développements des relations algéro-espagnoles. La ministre française a souligné, selon le Quai d'Orsay, son profond attachement aux bonnes relations entre les partenaires européens et leurs voisins de la rive sud de la Méditerranée. Les deux ministres ont abordé les crises régionales, notamment au Mali et en Libye. Le gardien des mondes, le documentaire de la réalisatrice Leïla Chaïbi, sera présenté demain à Tunis. Un long métrage qui a pour héros Hassan, un homme qui vit depuis 40 ans dans un cimetière sur les collines du Gélaz en Tunisie. Leïla Chaïbi.
C'est un film qui s'appelle Gardien des mondes, qui est un long métrage documentaire, un documentaire de création, et qui s'intéresse à Hassan, qui est une personne qui vit dans le cimetière. Il y loge, il travaille également, de manière assez informelle, mais depuis plusieurs années. Donc c'est devenu une figure du cimetière. Et aussi, du coup, il a un regard un peu particulier sur le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est vraiment à la croisée des mondes, on va dire.
Comment avez-vous fait sa connaissance ?
Par hasard, en fait, j'ai accompagné une amie qui a un frère qui est enterré à cet endroit, enfin dans ce cimetière qui est très très grand, puisque c'est peut-être le cimetière le plus grand et le plus ancien, je crois, de Tunisie. Et donc c'est le monsieur qui s'occupait de la tombe, et il est venu, il nous a parlé, il a parlé du djinn qui habitait dans l'arbre juste au-dessus, et moi ça m'a assez intriguée pour avoir envie de le revoir et puis de mieux connaître le lieu aussi. En fait, moi quand je l'ai vu, mon métier en tout cas c'est la caméra, même avant que je devienne réalisatrice, je faisais des images pour d'autres documentaires, et en tout cas c'est une personne qui m'a parlé à ce niveau-là très vite. Il a fait vibrer en moi un imaginaire, l'envie aussi de découvrir un territoire qui était presque interdit. Donc dès le départ, en tout cas, moi j'avais l'intention de le connaître, mais dans ce cadre-là, d'avoir envie de le mettre en image, etc. Et assez vite, en fait, ça a été une discussion entre nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on a passé beaucoup de temps à mieux se connaître avant que le film existe et qu'il soit en production. Mais entre nous, en tout cas, entre le personnage et moi, ça a été assez vite acté qu'il y aurait un film.
Et qu'est-ce que vous avez appris en l'écoutant, mais aussi en le regardant, puisque vous l'avez filmé ?
En fait, Hassan, il m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un qui vit dans le cimetière, et puis moi, je l'appelle le gardien des mondes, mais en vrai, il a quand même une situation qui peut être beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire c'est un SDF, c'est quelqu'un qui a une vie assez précaire et qui a trouvé un espace de liberté là où on ne lui en offrait pas beaucoup, en fait. Et donc, c'est à ce niveau-là, moi, qui m'a inspirée, c'est-à-dire d'avoir cette force pour garder foi en la vie, avoir une certaine rigueur aussi dans ses rapports humains, dans sa manière, lui, de gérer son quotidien. Voilà. Je le trouvais très inspirant parce qu'il a une façon de sublimer sa propre existence qui est assez magique.
Qu'est-ce qu'il a fait avant d'être le gardien de ce cimetière en Tunisie ?
Alors, je pense qu'il a fait quand même pas mal de petits boulots. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il habite dans le cimetière. Il y est lié parce que il y a tout plein de quartiers assez populaires autour du cimetière qui sont des quartiers, historiquement, qui étaient les quartiers d'Algériens en Tunisie. Et donc, il vient de ces quartiers-là. C'est des populations qui traversent le cimetière et donc qui ont déjà un rapport au lieu qui est pas moins sacré, mais qui fait partie de leur quotidien. Et en fait, il a immigré aussi, il a vécu quelques années en Italie. Et voilà, le cimetière, finalement, c'est un peu son refuge, c'est l'endroit où il a atterri à chaque fois qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller.
Et quel est le regard qu'il porte sur la mort, lui qui fréquente finalement des familles endeuillées toute la journée ?
Eh bien, justement, en tout cas, de ce qu'il dit, il n'a pas peur de la mort, c'est une étape qui fait partie de la vie. Et puis, c'est peut-être d'ailleurs un chemin vers une autre vie. Voilà, qui définit lui d'une manière, qui peut être définie d'une autre, mais c'est quelque chose finalement qui fait partie de son quotidien, qui fait partie vraiment de l'existence et qui n'est pas quelque chose de triste en soi, c'est-à-dire c'est une étape. Voilà. C'est un monde de justice aussi, qui a peut-être après la mort, un monde d'égalité, un monde où chacun sera récompensé en fonction de ses actions. Donc pour lui, il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire il y a un endroit, après la mort, les choses se remettent en place.
Il a pu voir le documentaire. Est-ce qu'il va assister à la première à Tunis ?
Alors, il n'a pas encore vu. Il a vu quelques extraits, mais il n'a pas du tout vu le documentaire. Moi, je l'ai appelé justement, en effet, pour le prévenir, en tout cas, de cette première projection. Et puis, lui demander s'il avait envie de le voir avant ou s'il avait envie de le découvrir en salle. A priori, il va le découvrir au moment de cette projection. Alors, le documentaire, il est projeté dans le cadre du Festival Documed, hein, qui est un festival qui a 4 ans d'existence et qui a été initié par la Cinémathèque de Tunisie. Et donc, c'est un festival qui a l'air d'avoir une très jolie programmation, en tout cas, et qui laisse la part belle au documentaire de création sur tout le pourtour méditerranéen. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que c'est un film qui est vraiment une coproduction franco-tunisienne et puis qui a été soutenu par différents fonds. Mais il a été particulièrement porté au tout début de l'écriture par AfricaDoc, qui est un réseau de cinéastes et puis de formation aussi autour du documentaire africain. Et donc voilà, c'est là où il a trouvé ses producteurs et il a pu émerger.
Leïla Chaibi, réalisatrice du documentaire Le gardien des mondes, documentaire qui sera présenté demain à Tunis. Leïla Chaibi répondait à Loïc Barrière. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, après l'accusation, parole à la défense, les avocats de Salah Abdeslam et de ses 19 co-accusés ont commencé à plaider hier et pour 2 semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vendredi, l'accusation a requis la réclusion criminelle à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos terroristes de Paris. Contre les 19 co-accusés, les 3 avocats généraux ont demandé des peines à allant de 5 ans de prison à la perpétuité. La journée mondiale des donneurs de sang, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne, intitulée « Donneurs de sang, tous soignants ». À l'approche des vacances, il manque, d'après l'organisme, 30 000 poches dans les stocks. L'établissement français du sang explique avoir besoin de 10 000 dons chaque jour pour sauver des vies. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, victoire du Maroc hier soir lors du deuxième match des Lions de l'Atlas. Ils l'ont emporté 2-0 face au Libéria. Après leur victoire contre l'Afrique du Sud, les Lions de l'Atlas ont ainsi enchaîné un deuxième succès dans leur groupe K. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 12h16. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.